vient d'être 17h et vous êtes en direct pour suivre le journal sur les ondes des 47 radios partenaires du studio Kalangou. Au micro, je suis Rukaye Abdrahman. À la une du journal, la situation alimentaire et nutritionnelle au Niger, au cœur des échanges entre partenaires techniques et financiers et experts à Niamey durant 3 jours. Les détails dans un instant. Le bilan d'un feu de brousse qui s'est déclaré lundi à Bermo, région de Maradi, fait état de plus de 17 000 hectares de pâturage partis en fumée et de 19 personnes blessées. Vous entendrez le préfet du département de Bermo dans ce journal. En partie magazine de cette édition, on parlera de la coopération entre DECAF et les services de sécurité, de l'amélioration du contrôle de la gouvernance sécuritaire au Niger. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les partenaires techniques et financiers, les représentants des ONG et autres experts des questions humanitaires vont échanger sur les questions liées aux droits humains pendant 3 jours à Niamey et aussi sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Niger. Yannick Mbangé, le coordinateur de Cluster Protection, explique au micro de Mokhtar Hamadou.
Il faut dire qu'en ce qui concerne la sécurité alimentaire et les questions nutritionnelles, il y a des clusters qui sont spécialisés. Donc il s'agit de groupes d'experts en charge des questions nutritionnelles et des sécurités alimentaires. Nous, au niveau de la protection, nous assurons la transversalité des aspects protection, c'est-à-dire le respect des droits des hommes, des femmes, des filles et des garçons dans les différentes réponses que les autres secteurs donnent. Les secteurs qui ont cette responsabilité-là mènent les évaluations et ce sont ces secteurs qui nous donnent la situation et nous nous assurons que dans la réponse, les aspects liés aux droits de l'homme, les aspects liés à l'intégrité physique et morale des personnes tout au long de notre réponse en 2022. L'analyse de la situation que nous avons avec les difficultés pour un certain nombre d'agriculteurs dans les 4 régions que j'ai citées d'accéder par exemple à leurs champs met déjà en perspective un potentiel, je dis bien un potentiel risque d'insécurité alimentaire.
Lundi et hier mardi, le département de Bermo dans la région de Maradi a été victime d'un important feu de brousse. On estime plus de 17 000 hectares de pâturage partis en fumée, 19 personnes blessées et admises au centre de santé de Bermo, parmi lesquelles 8 ont été évacuées à l'hôpital régional de Maradi, a indiqué le préfet Ousseini Jaho, préfet de Bermo, au téléphone de Umaru Adamu.
Ce feu de brousse a commencé à partir de Akadani. C'est un éleveur qui l'a provoqué suite à la préparation de son petit déjeuner et les flammes ont atteint les pailles et s'est propagé vers l'ouest. 17,233 hectares ont été consumés. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Cependant, il y a eu des personnes blessées aux jambes et d'autres sur le corps. Parmi eux, il y a ceux qui ont été évacués à l'hôpital de Maradi. Ils sont au nombre de 19 personnes, dont 8 suivent des soins à Maradi. 11 sont au niveau du district sanitaire de Bermo. Il y a des mesures que nous avons prises, puisque des séances de sensibilisation sont menées nuit et jour par nous-mêmes représentants de l'État, avec les chefs coutumiers, les élus locaux, les différents maires.
Plus de 130 villages déficitaires cette année sur 148 dans le département de Baleyara, région de Tillabéri, pour cette présente campagne agricole 2021. Cela est ressorti samedi d'une réunion d'évaluation au palais du chef de canton entre les autorités administratives et l'ensemble des chefs de village. Salifou Ousmane, directeur départemental de l'agriculture de Baleyara, pour d'autres détails, il est au micro de Hassan Moumouni.
Cette année, la saison pluvieuse s'est installée chez nous tardivement. Un grand retard qui s'ajoute à un envahissement des champs par les herbes avant même qu'on ne commence à les cultiver. Bien qu'il y a beaucoup de champs qui n'ont pas pu être cultivés cette année. Ensuite, à partir du 15 août, il y a eu une période de sécheresse de 2 à 3 semaines selon les endroits qui a favorisé l'apparition des chenilles mineuses depuis faisant d'énormes dégâts. Suivi d'une autre sécheresse du 14 au 25 septembre. Ce sont ces deux sécheresses qui ont durement impacté nos récoltes. Aussi, sur nos 148 villages agricoles, environ 130 sont vraiment déficitaires. C'est pourquoi notre préfet et le chef de canton ont initié une rencontre avec tous les chefs de village le samedi passé au palais du chef de canton pour discuter sur la situation du bétail. Car avec le manque d'eau suite aux sécheresses, les animaux vont obligatoirement redescendre pour soit rester dans la zone ou continuer ailleurs.
Studio Kalangou. Une mission comprenant des humanitaires et conduite par le secrétaire général du gouvernorat de Diffa était ce week-end dans les villages de Barwa, Ingagam et Garindogo. C'était pour superviser la construction des infrastructures socio-économiques détruites par les attaques des éléments de Boko Haram. Boulama El-Hajj Manga, le chef de village de Barwa, a transmis aux autorités les doléances de ces populations, des propos recueillis par Mani Abdou.
Depuis que le village de Barwa est retourné en date du 20 juin 2021, nous rencontrons quelques problèmes fondamentaux. Nous avons effectué un déplacement afin de rencontrer les autorités compétentes pour leur soumettre le cri de cœur de notre population. Mais nous n'avons pas pu rencontrer le gouverneur. C'est pourquoi nous entreprenons de lui adresser cette doléance et à travers lui à tout le gouvernement de notre pays pour davantage multiplier leurs efforts à nous porter aide et assistance jusqu'au redressement et à la résilience effective de notre village. En effet, cela fait 2 mois que la population de Barwa est confrontée au manque de vivres. La population n'a pas d'autre activité car le lit du lac est pratiquement inaccessible et les récoltes n'ont pas été fécondées.
Sport à l'école est un projet qui concerne 13 établissements primaires et secondaires des communes de Doganduki et Dankassari. Il a été lancé vendredi. Ce projet entre des villes nigériennes et françaises s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée et a pour objectif la promotion du sport à la base. Issaka Omoru Moussa, agent de l'ONG qui pilote les activités de la coopération Douki Orsei, donne des explications au micro de Abdelaziz Dayouma.
L'année dernière, la coopération décentralisée a participé aux activités aux jeunes organisées, financées par l'ambassade de France dans les régions qui ont les alliances françaises ou les CCFN, Maradi, Zander et Agadez Niamey. Donc nous avons pris part à ces rencontres sportives et après, nos jeunes écoliers des écoles primaires étaient très contents d'avoir participé à ces activités sportives et nous nous sommes dit qu'il serait bien de monter un dossier pour continuer un peu cette expérience que nous avons eue de l'OGEN. L'objectif du projet, c'est de faire la promotion de l'EPS et du sport à l'école primaire pour faciliter le travail des enseignants de l'éducation physique et sportive au secondaire. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, chaque trimestre, nous allons organiser un petit exercice qui va consister à organiser des rencontres inter-écoles et intercommunales.
13 journalistes des médias partenaires du studio Kalangou sont en formation de 3 jours à partir de ce matin à Dosso sur l'informatique appliquée à la radio. Aliou Abdou, le chargé de formation des médias partenaires au studio Kalangou, s'exprime sur les attentes de cette formation. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
Cette formation de la thématique s'intitule Informatique appliquée à la radio vise à former les médias partenaires sur certains outils, notamment les basiques en Word, les techniques de montage. Mais également, il s'agira pour cette formation de les outiller dans les différents formats de son. Nos attentes, c'est que les médias partenaires soient attentifs, assidus, pour pouvoir cerner tous les enseignements, pour qu'au sortir de cette formation, qu'ils puissent améliorer leur travail qu'ils font au quotidien.
Parlons santé. Dans cette édition, les kystes ovariens sont des manifestations d'une maladie qu'on retrouve chez la femme, souligne le gynécologue du centre mère et enfant de Zender. Selon lui, il n'y a pas un âge précis où la femme peut tomber malade. Des échographies sont nécessaires pour déterminer l'ampleur de la maladie. Docteur Sahiru Sanoussi, gynécologue au centre mère et enfant de Zender, donne les signes de cette maladie au micro de Maria Manou.
Le kyste de l'ovaire se manifeste au niveau de l'ovaire de la femme. Il y a 2 parties, gauche et droite. Quand la femme fait le rapport sexuel et que le kyste se mélange avec le sperme de l'homme, par cette jonction, la femme tombe enceinte. La jeune fille peut avoir ce kyste. La femme adolescente et la femme qui ne procrée plus peut l'avoir. C'est cet état de fait qui entraîne la stérilité. Alors, il va falloir faire un examen radiologique, échographie, pour savoir que la femme porte du kyste. C'est ce qui parfois empêche la procréation. Quand il s'agrandit, la femme n'arrive plus à observer ses règles. Attends, elle voit ses règles ce mois et le mois prochain, elle ne les voit plus. Et tout kyste qui ne dépasse pas 5 cm avec le traitement, la femme peut être guérie. Il y a des kystes qui dépassent cette hauteur. On y trouve ceux qui peuvent atteindre 20 cm. On peut voir la femme enceinte alors qu'il s'agit du kyste. Obligatoirement, il faut l'inciser.
Les jeunes Nigériens sont attirés de plus en plus par les arts martiaux. Le jutsu est un art martial traditionnel japonais qui se base sur l'attaque et la défense. Il a fait son apparition ces dernières années au Niger. Comment il a été accueilli et sa place aux côtés d'autres arts martiaux? Madei Boubakari Ibrahim, précurseur du jutsu au Niger, explique au micro de Salamat Kadri.
Le jutsu tente de se faire un bon petit bout de chemin. D'autant plus que quand ça a commencé, c'était quelque chose de totalement méconnu du public. Donc au fur et à mesure, on a fait une phase de promotion pendant 10 ans. On a essayé d'expliquer c'est quoi l'art. Donc si c'est méconnu, c'est parce que l'art n'est pas olympique. Maintenant, on est en train de chercher à évoluer vers l'olympisme. Donc là, nous au Niger, dans la promotion, on a eu à faire quelques tournées à l'intérieur du pays. Bon, c'est la situation sécurité et Covid qui nous a un peu freinés. On a fait le tour de quelques régions du Niger. Jusqu'à Difa, on a été. Mais on a deux grandes ligues, à savoir Zander et Maradi, où nous avons des représentants et des pratiquants qui sont là-bas. Mais sinon, 70 à 80% des pratiquants sont basés ici à Niamey, là où il y a la totalité des clubs. Il y a à peu près 16 clubs.
Et puis la partie magazine de cette édition, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF intervient au Niger depuis quelques années dans l'amélioration du contrôle de la gouvernance dans les services sécuritaires. L'accompagnement de DECAF a incité le Niger à relever les obstacles pour un contrôle de qualité du secteur de la sécurité, a estimé Jolie Rouf Morand, la représentante de DECAF au Niger. Elle est au micro de Mokhtar Hamadou.
En matière de gouvernance du secteur de la sécurité, il y a des acteurs clés, dont les parlementaires ou d'autres acteurs qui ont en charge du contrôle ou de la supervision du secteur de la sécurité. Mais ce que nous voyons depuis que nous travaillons dans cette coopération, c'est que d'une part, les forces de défense et de sécurité se sont appropriées ces questions de gouvernance et surtout, si on regarde les questions sécuritaires dans la sous-région, les réponses militaires ou sécuritaires ne suffisent plus. Il faut de plus en plus rentrer dans le vif du sujet sur ces questions de bonne gouvernance et ils sont les premiers concernés pour effectuer redorer leur image, ensuite renforcer cette confiance entre les FDS et la population.
Depuis presque 4 ans que DECAF intervient dans le domaine de la gouvernance des questions sécuritaires, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une amélioration sur le terrain?
Je vous l'assure, on a vu énormément de choses. Le DECAF intervient dans la sous-région dans pas mal de pays et ce qui se passe au Niger sert de modèle. Nous avons vu déjà au niveau stratégique les initiatives qui sont en train d'être mises en œuvre, à commencer par le travail du CNES. Et le CNES est en charge d'élaborer la politique nationale sur la défense et de la sécurité. Et c'est une initiative très importante. Nous avons vu énormément de choses qui se sont passées au sein des forces de défense et de sécurité, que ce soit pour revoir leur cadre légal, les questions de gestion des ressources humaines, le travail sur la police de proximité. Vraiment tout ça pour essayer de renforcer l'efficacité et l'intégrité au sein des forces. Nous voyons vraiment une progression. Pareil, les questions de gouvernance, le rôle des acteurs en charge du contrôle externe. Là aussi, on voit le travail que les parlementaires font, qui jusqu'à présent était tabou, la question de secret défense. Ça demande un courage politique. S'il faut regarder au Niger comme dans la sous-région, le budget de la défense et de la sécurité ne cesse d'accroître.
Justement, dans ce domaine, le Niger avait traversé l'une des pires crises au niveau de la gouvernance des questions sécuritaires en ce qui concerne un détournement du budget alloué à la défense et à la sécurité. Est-ce que c'est une réponse à cette problématique que vous êtes là?
C'est une des réponses, tout à fait. Je voudrais saluer le courage des autorités parce que l'inspection générale des armées et de la gendarmerie, qui est un des partenaires du DECAF, a fait ce travail d'audit. On montre déjà une volonté politique pour s'attaquer à ça. Et ça aussi, ils se sont rendus compte de l'importance d'être dans la prévention pour pas que cela se reproduise. Et cela demande effectivement d'abord des mécanismes de contrôle internes.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.